Nous parlerons de la pensée du XVIe siècle et de l'arrivée de l'athéisme et de l'accroissement de l'athéisme conjointement à l'œuvre du Concile de Trente dans ce siècle. Dans son histoire de l'Église, l'abbé Yvelin consacre 3 chapitres à l'évolution de la pensée occidentale au XVIe et XVIIe siècle dans le domaine de la philosophie, de la science et de la théologie. Cette époque vit naître des courants qui n'ont cessé de s'affirmer jusqu'à nos jours, du pire au meilleur, de Karl Marx à Benoît XVI. On a fait souvent remarquer que si Satan ne se renouvelait guère quant au fond, il ne manquait jamais d'imagination pour y adapter la forme et l'apparence. L'idée du monde, la manière de voir l'univers, a été transformée à la fin du XVe siècle, qui connut la prise de Constantinople par les Turcs, mais aussi la découverte de l'Amérique. Martin Luther, Saint Ignace de Loyola et des contacts de plus en plus étroits avec l'Extrême-Orient, notamment un début d'évangélisation de la Chine et du Japon. Ajoutons un développement remarquable des traitements des métaux, l'invention des armes à feu et surtout la découverte de l'imprimerie, une technique qui a favorisé de manière extraordinaire la diffusion des pensées les plus diverses. Le cadre intellectuel n'était plus celui de Charlemagne ou de Saint-Louis, même si le cerveau humain restait le même. Certains ont parlé de la naissance des Lumières, lumière que Satan fit tout pour transformer en ténèbres. Examinons les quelques cas particulièrement douloureux. À la mort de Clément VII en 1605, il y eut plusieurs changements liturgiques, de nombreuses réformes dans les séminaires, des ordres nouveaux comme les jésuites et des saints de toutes sortes. Ne citons que saint Ignace, saint François de Sales, saint Bernardin, saint François Xavier, saint Vincent de Paul, sainte Thérèse d'Avila, sainte Catherine de Sienne, sainte Chantal, etc. Mais l'arrivée de l'imprimerie permit de transmettre les pensées les plus subversives. Aussi, le Concile de Trente décida-t-il de dresser une liste des ouvrages qui transmettaient des opinions contraires à la foi. Ce fut la naissance de l'index, liste d'ouvrages dont la lecture était prohibée en l'absence d'un guide spirituel compétent, cela va de soi. Un premier catalogue fut publié en 1564. Un catalogue plus complet vit le jour sous Alexandre VII, en 1650, avec la liste et l'histoire des difficultés soulevées par tel ou tel philosophe auxquelles l'Église devait faire face. Plusieurs de ces questions restent actuelles et alimentent un athéisme toujours croissant de nos jours. Plusieurs de ces livres prônaient le droit absolu du pouvoir civil devant le pouvoir religieux dans les activités quotidiennes. Cette tendance est devenue régnante aujourd'hui sous le nom de laïcité. Toute allusion aux religieuses dans la vie officielle se trouve interdite. Ordre est donné à Dieu de rester caché, de ne pas se faire voir en public. Le Parlement de Paris avait déjà condamné le Tasse qui avait parlé du pape qui domine le royaume. Il considérait cette phrase comme attentatoire aux droits d'Henri III et d'Henri IV. Un Vénitien, Paolo Sarpi, affirmait que le droit du roi était absolu. Il souhaitait que le clergé ne fût pas trop vertueux et n'eût pas trop d'influence sur le peuple. Ce moine, qui disait pourtant la messe tous les jours, était plus souvent dans la salle du conseil que dans sa cellule. Il est resté un adversaire dangereux de l'Église. Son système était à la base du gallicanisme et des difficultés surgies sous Louis XIV. Ni luthérien, ni calviniste, il n'en était pas moins opposé à Rome, dont il considérait le pouvoir comme dictatorial. Un autre adversaire fut Giordano Bruno, un autre prêtre, qui se disait médecin et philosophe. Il dépassa le protestantisme pour tomber dans l'athéisme et de là dans le panthéisme, dans la négation d'un dieu personnel. Né en 1548, il fut ordonné prêtre à 24 ans, mais d'un caractère violent, il fut pris d'une furieuse envie de liberté et d'écrire tout ce qui lui passait par la tête. On pourrait parler de possession diabolique. Il prit en haine tout ce qu'il avait enthousiasmé dans sa jeunesse. Il se trouva envahi d'une révolte qui le comblait de tristesse. Il était dans une négation totale. Il voyait dans Rome la bête de l'Apocalypse. Pour lui, tout le passé était sans valeur. Je ne puis m'empêcher de penser à ceux qui ne cessent aujourd'hui de parler d'obsolescence. Il peignait Jupiter comme un vieillard délabré, Vénus comme une vieille ridée. Il annonçait que le siècle à venir mettrait fin à la peur des peines éternelles. Il accusait le christianisme de faire pleurer sur la vie en faisant planer des terreurs vaines et puériles. Il avait décidé de penser par lui-même sans l'aide de personne. On croirait lire Jean-Paul Sartre. Décidément, nos modernes esprits libres n'ont rien inventé. Ils répètent ce qui a été dit 450 ans plus tôt. Après 6 ans de prison à Venise, Giordano Bruno fut transféré à Rome. Accusé d'apostasie, il fut condamné à être brûlé vif. Il avait déclaré « Si je pense avec la nature, personne ne me contredira. Une nature que l'homme peut penser à sa guise. » Serait-il le précurseur de certains écolos à la mode qui voudraient refaire le monde suivant leur fantaisie? À ses côtés, un certain Napolitain nommé Campanella, un joli nom, se déclara apôtre d'un progrès indéfini, persuadé d'une évolution continue porteuse de ce progrès. Dieu s'est révélé aux Assyriens par les astres, aux Romains par les augures, aux Juifs par les prophètes et aux chrétiens par l'Église. Maintenant, ajoutait-il en 1620, avec les découvertes scientifiques, on va bâtir la cité heureuse d'où sera bannie la douleur. On considère Campanella comme un précurseur du communisme et du saint-simonisme. Un quatrième philosophe, également un prêtre, fut Vanini, qui a été également l'auteur d'études d'anatomie. Il a prêché le matérialisme pur. Pour lui, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu ne sont que mythologies sans fondement. Il ironisait en disant « Personne n'y a été voir, mais on nous dit qu'il faut croire puisque c'est l'Église qui le dit. Ah. » Pour lui, le diable est un brave homme. Nous entendons toujours de tels discours dans certaines émissions ou les lisons dans des revues à la mode. Il fut lui aussi condamné à être brûlé, mais après avoir eu la langue tranchée. On ne plaisantait pas à l'époque. En conclusion, la conclusion de tous ces errements pourrait se résumer en un proverbe latin « Nil novis ipsole ». Tous nos prétentieux athées contemporains ne sont finalement que les échos plus ou moins réussis de penseurs d'il y a presque 5 siècles. Les lumières dont ils se veulent les témoins ne sont qu'un vieux brouillard. La mise à l'index de ces ouvrages était considérée comme une manifestation de despotisme alors qu'il s'agissait essentiellement d'une mise en garde contre une lecture imprudente, un peu analogue aux notices que l'on voit sur les médicaments actuels en ce qui concerne leur prise. Il est certain que toutes ces découvertes ont donné à l'homme un pouvoir croissant sur la nature, avec l'orgueil correspondant. Actuellement, on est près du paroxysme. L'homme, du moins l'agnostique, se croit maître de la vie et de la mort, ne serait-ce qu'l'avortement, l'euthanasie et maintenant la GPA. Ce n'est pas le savoir qui est condamnable, mais bien l'usage qu'on en fait. On peut aussi mentionner les conclusions erronées que certains ont tirées du fait qu'on avait constaté que l'écriture ne pouvait être prise à la lettre. Mais n'était-ce pas le cas depuis toujours? La Bible n'a jamais été un livre scientifique. Je ne me suis jamais senti obligé de croire que les végétaux avaient été créés le 3e jour et le soleil seulement le 4e, ni que Noé avait embarqué sur son arche de quoi nourrir ses bêtes pendant les 7 mois et 40 jours qu'il a fallu attendre pour les relâcher. Les récits de la Genèse nous montrent poétiquement, par symbolisme, ce qu'il faut croire. Par symbolisme, la toute-puissance de Dieu. Les détails sont des ornements. Il en est de même de certains récits historiques. Je ne mettrai pas ma main à couper, ni même un ongle, au sujet du livre des rois, qui affirme que Salomon eut 700 épouses et 300 concubines. L'affaire Galilée est un exemple de ces malentendus. Je compte en parler la prochaine fois.